toujours plus de contenu. FM 93. Du bon le matin. As-tu deux minutes?
Avant les nouvelles, Pierre, permets-moi de te lancer sur la circulation. Ça a l'air d'être compliqué ce matin.
Oui, ça a été compliqué dans les derniers instants. Il semble que ça ait recommencé à bouger. Toutefois, l'accident qui est en bordure d'Henri IV, direction nord, le camion qui est arrêté à Hochelaga, aurait été déplacé. Donc, ça a recommencé à bouger dans le secteur. Mais évidemment, il y a toujours des répercussions jusque sur la rive sud. Mais de moins en moins, c'est la bonne nouvelle.
Merci. Jonathan Marchand prend les grands moyens pour ne pas retourner en CHSLD. C'est depuis hier matin que l'homme s'est installé dans une cage devant l'Assemblée nationale. Il est encore là ce matin. Il ne veut pas retourner en CHSLD tant qu'il n'aura pas rencontré le premier ministre François Legault. À 43 ans, Jonathan Marchand a besoin d'assistance 24 heures sur 24. Il utilise un respirateur artificiel. Il veut que Québec lui donne directement l'argent qui est fourni au CHSLD pour s'occuper de lui et qu'il gère les finances à la maison. Il veut être un atout en société et non bloqué en CHSLD. La ministre des Aînés, Marguerite Blais, est allée à sa rencontre hier midi. Elle insiste sur une chose, il est temps de s'attaquer au maintien à domicile. Il y a une association de propriétaires d'immeubles qui estime avoir trouvé une façon de rendre légal le dépôt de garantie au Québec. Elle propose aux futurs locataires de remplir un formulaire où ils affirment qu'ils le versent de façon libre et volontaire. Mais il s'agit d'un détournement de la loi selon la porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement, Véronique Laflamme. Et la nouvelle colistière Kamala Harris et le candidat démocrate à l'élection présidentielle, Joe Biden, ont effectué leur première apparition publique ensemble hier au Delaware. La première femme noire à être candidate à la vice-présidence aux États-Unis parle d'une élection qui aura des conséquences sur le pays. Elle a affirmé que l'économie, la santé et les enfants sont en jeu. Avant qu'elle ne prenne la parole, Joe Biden a critiqué les 4 ans de mauvaise gestion du président et il a assuré qu'il était possible de reconstruire ce que Trump a démoli.
Au hockey, le Canadien a perdu 2-1 hier contre les Flyers de Philadelphie. Shea Weber était le seul marqueur du Canadien lors d'un avantage numérique en deuxième période. C'est d'ailleurs le premier but du Canadien en avantage numérique en 13 occasions depuis le début des éliminatoires. Prochain match, c'est demain, 15h. Évidemment, c'est toujours à Toronto contre les Flyers. Hier, dans les autres matchs, victoire de Boston 4-3 en deuxième prolongation sur un but de Patrice Bergeron contre les Hurricanes de Caroline. Victoire aussi pour les Islanders, le Colorado et Vancouver. Aujourd'hui, il y a 4 matchs. Ça débute à 15h avec l'affrontement entre Columbus et Tampa Bay qui s'était livré 8 périodes de jeu il y a 2 soirs. Le tournoi des maîtres a fait savoir que l'édition 2020 se déroulera sans spectateurs. Ça devait être présenté au début du mois d'avril. C'est toujours le premier week-end d'avril, mais finalement, ça a été repoussé lors du week-end du 12 au 15 novembre prochain. Toujours à Augusta, bien sûr, mais il n'y aura pas de spectateurs. Il n'y en aura pas non plus pour l'Omnium des États-Unis qui sera disputé dans à peu près 1 mois. Et celui de la semaine dernière, le premier tournoi majeur de la saison, le championnat de la PGA, également s'était disputé sans spectateurs. Et le tournoi européen, en fait, le British Open, l'Omnium d'Angleterre.
Je voudrais t'aider, Yves. Je voudrais.
Ils vendent tout le temps, là?
Oui, où ils vendent tout le temps, puis il n'y a pas d'arbre.
Ah, puis il y a des fosses de sable, là, ça prend une échelle pour en sortir, là. Kim, il y a une fosse de sable, le mur en avant, il y a au moins 10 pieds de haut.
Oui, sur certains terrains, effectivement. Ouais. Lui, il a carrément été annulé, lui.
Okay.
Il va y avoir juste 3 tournois majeurs cette saison au golf.
Good. À la météo, ben, c'est du beau temps. C'est beau. Ça n'a pas de bon sens. J'ai Dan Lepeinte, mon chum, le peureux, là, en moto. Il m'a envoyé une photo. Lui aussi, il a pris une photo du soleil levant ce matin. C'était tout à fait splendide. C'est bien des inconvénients de se lever de bonne heure. Mais se lever de bonheur, il n'y a rien, là. C'est de se coucher qui est off. Moi, mon combat, c'est va te coucher, mon grain innocent. Fait que.
C'est ce que j'ai fait hier après la deuxième.
Non.
J'ai passé 10 minutes dehors pour essayer de voir des étoiles filantes. C'était la meilleure soirée pour les voir, apparemment. Bon, on en a pour quelques soirs, là.
OK, et puis?
Pas vu, hein. Le seul que j'ai vu, c'est moi, j'ai filé dans mon lit après le match.
Ah ouais, ça a filé, c'est sec.
Je n'ai vu une ce matin, en sortant de la maison.
Mais ça prend beaucoup de noirceur, ça veut dire que tu vis à l'écart de la société, toi?
Un peu.
OK.
Quand même.
Ah ouais.
Mais il n'y a pas d'électricité chez nous. Il y a l'électricité pas rendue chez nous.
On est des étoiles.
J'avais rencontré, c'est un policier de Lévis, là, son nom m'échappe. Lui, il trippe sur les aurores boréales. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une page Facebook ou un site Internet. Puis il va dans le Nord, là. Et c'est un maniaque de photographie.
Mm-hmm.
Et il prend des photos de ça qui sont splendides.
T'as pas besoin d'aller dans le Nord, hein? Tu peux en observer parfois sur l'île d'Orléans puis dans Charlevoix. Faut que tu connaisses ça, là, mais j'ai un ami qui les chasse, si on veut, puis il y en a trouvé ici, là, à Québec.
Parce qu'il n'y a pas de cédule pour ça, c'est ça le problème.
Puis à l'île d'Orléans, ils ont fait une pétition, ils ne voulaient pas que si tu habites pas l'île, que tu regardes. C'est pour le monde de l'île, comme les pommes.
Oui, il faut que tu payes.
Ouais, tu charges quelque chose.
Mais payer.
Plus d'une minute, ça coûte quelque chose.
Mais c'est toujours mieux, évidemment, comme pour les étoiles filantes, là, d'aller à des endroits où il n'y a pas de pollution lumineuse.
Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un lampadaire dans le cours, puis des enfants, puis d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Moi, le checker, ben, je pourrais pas, j'ai tout fermé. Mais tu sais, moi, c'est mon système de radio, mettons, dans ma chambre, qui part le matin à 5 heures. Puis, mais il faut que. Je dis à mes gars hier, quand je suis participé, j'ai dit, vous fermerez la musique, les boys. Ils ont probablement fermé le Sonos qui distribue la musique, mais ils n'ont pas fermé 15 de son. Fait qu'à 5 heures le matin, je pense que tous les systèmes, la piscine, le patio, la musique dehors, tout est parti.
Les voisins devaient t'aimer.
Ouais, matin, c'est terminé. Mais le temps qu'ils appellent le 911 puis tout, j'ai oublié ta partie.
Ah, c'est ça.
Ils m'ont pas pogné. Je vous ai étudié qu'il faisait beau. Il fait beau aujourd'hui. Il va faire beau demain. C'est 27 au maximum. Il n'y a pas l'ombre d'un nuage qui a envie de se pointer le bout du nez. Vous allez peut-être en voir un ou deux, là. Textez-moi pas au 25226 pour vous plaindre, là. OK? Appelez directement au CRTC.
Fait que. Oui, s'il vous plaît.
Il va faire beau. Puis demain, je vais vous donner une garantie sur la qualité du week-end qui s'en vient. Sur la qualité, évidemment, de la météo du week-end qui s'en vient. Pour le reste de vos activités, je peux pas donner de garantie.
Ben, c'est ça.
Alors...
Hey, t'as chose. Ça veut dire ça, toi, chose?
Ça veut dire ça, toi, chose, mais avant de passer à ça et de s'est produit...
Ça reparlera
pas. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est simplement le jeudi. C'est la seule journée que j'ouvre le journal parce que je regarde les avis de décès. Vez me trouve toujours bizarre de regarder ça. Pourtant, je lui recommande de le faire parce que des fois, tu vas voir le père d'un ami ou... moi, des faces... Moi, en plus, pour reconnaître des faces, je suis très bon. Puis des fois, je dis, voyons, lui, ça me dit quelque chose. Faut que je fouille un petit peu pour le voir. Un des phénomènes, justement, quand on a parlé de ça, je pense que c'est plus tôt cette semaine, c'est produit dans les derniers mois, mais c'est publié aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a une photo du couple Lina Picard-Lachance et Vincent Lachance. Ils sont tous les deux posés ensemble. C'est à la page 51 du Journal de Québec. Donc, le couple est posé là et voici le message. Paisiblement, à son domicile, le 4 mai 2020, donc vous comprenez que ça fait quand même un bout de temps, à l'âge de 77 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Madame Lina Picard-Lachance, époux de Vincent Picard, qui, lui, est décédé le 2 juin 2020. Oui, ils sont décédés à peu près avec un mois d'intervalle. Mmh. J'ai checké, je voulais voir. Ils ont été mariés combien de temps? Puis je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas. Mais là, il y a la liste des gens. On fait des remerciements également et on dit que les marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer et également à la Société d'Alzheimer. Voilà. Pour rendre hommage à Mme Picard et M. Lachance, nous vous invitons à visiter notre site Internet. Okay, ben voilà. Ça, d'ailleurs, ça fonctionne, hein?
Mm-hmm.
Moi, ma mère a quand même fait plusieurs années qu'elle est décédée, là, en 2004, puis ça commençait. Mais tu sais, des fois, des gens qui peuvent pas, puis là, tu sais pas, tu peux écrire à la personne direct sur Facebook, mais si vous envoyez un message à la maison funéraire, eux, ils les impriment, puis quand ils te donnent la pochette à la fin avec tous ceux qui ont écrit un mot, quand il y a des visites au salon, on te remet également tous les messages Internet reçus de sympathie. Puis des fois, c'est que c'est du monde que tu connais pas, mais qui connaissait tes parents.
C'est ça. Mais regarde, moi, je suis sur la vie de décès de mon père, justement, puis ils sont encore là, des témoignages qui datent de 2016, puis qui partiront probablement jamais, le temps qu'ils feront pas le ménage de leur site, puis je vois pas pourquoi.
OK, ton père, il est encore sur le site Internet de la maison funéraire?
Oui.
OK, j'ai jamais checké ça.
Oui.
Puis ça fait combien de temps de ça?
2016.
Ben, il faut que tu fasses une recherche, là.
Oui, mais les autres, donc ça prend pas beaucoup d'espace, fait qu'ils les effacent pas?
Ben, de ce que je comprends, tu sais, c'est juste du texte, il y a à peu près pas de photos, puis tout ce qui est image, c'est de base dans le site, là. Fait que l'image de mon père est grosse de même, là. C'est minuscule.
Je vais aller voir ça. Ouais. Si jamais pensé retourner voir ça. Écoute,
Moi, je me suis fait une série de favoris là, pour malheureusement les gens qui décèdent dans mon entourage. Fait que j'ai mon père, mes deux grands-parents qui sont décédés récemment, etc.
Et moi, le gars, mon père est décédé en 95.
Ouais.
Puis je suis allé, il faudrait que je vérifie dans mes photos, là. Je suis allé pour la première fois sur sa tombe. Il y a Si c'est pas l'été passé, c'est l'été d'avant. Ça va être il y a 2 ans, pour la première fois.
Qu'est-ce qui t'a amené à y aller?
Ben, là, c'est parce que j'étais correct. J'étais prêt. Les autres fois, je, tu sais, j'y allais au cimetière. Ben, c'est ma cousine qui reste, elle reste pas dans le cimetière, drette à côté, là. C'est le terrain voisin. Okay. C'est d'ailleurs, eux, c'était la maison de mes grands-parents. Puis c'est mon grand-père qui creusait les tombes, creusait les trous. Ben oui, moi, j'ai vu ça, moi. Tu sais, mettons, on arrivait chez mes grands-parents, puis mon oncle Armand, puis Marcelin, mon grand-père. Pardon, ils sont pas là, hein, ils sont en train de creuser une fosse.
Ben, voyons. Fait que là,
puis moi, j'ai vu de mes yeux, j'étais gamin, tu sais, parce que là, ils creusaient 6 pieds, puis des fois, la paroi de terre s'affaissait. Surtout quand ils arrivaient au fond, évidemment. Et s'il y avait eu, tu sais, ça arrivait des fois qu'un des membres du couple meurt en premier.
Ouais.
Ben, quand la terre tombait, les tombes étaient tellement proches qu'on voyait le côté de la tombe d'à côté.
Mm.
Puis si c'était une tombe en bois, sans fausse tombe en béton, hey, tu sais, il fut une époque que les gens avaient tellement peur des bébites. Qu'ils achetaient une fausse tombe. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, une fausse tombe en béton, là. C'est vraiment une cuve de béton. Ça doit avoir 2 pouces d'épais avec un couvert de béton. Puis ça, puis c'est fait pour fermer étanche, là. Fait que t'étais dans un cercueil, tu sais, en bois, là, fabriqué à Victo. D'ailleurs, je pense que c'est l'usine, la plus grosse usine de cercueil. Si je me souviens bien, c'était à Victo.
Ah ouais?
Et ensuite, quand il venait pour t'enterrer, la fausse tombe avait été installée. Fait qu'il descendait le cercueil dans la tombe, en fausse tombe en béton, et il remettait le couvert en béton par-dessus, et ensuite, il enterrait tout ça. Et c'était beaucoup de stock pour enterrer quelqu'un. Donc...
à bras, là. Ça veut dire que tu fais tous les trous à bras. Je comprends qu'au Québec, tu te relais, il y a plusieurs cimetières, mais hey!
Appel, puis il faisait un tas à côté, puis là, il y avait un rouleau de tapis gazon qu'il mettait par-dessus le tas pour que ce soit propre, quand parce que les gens, après le service funéraire à l'hôpital, à l'église, venaient au cimetière.
Ouais.
Et c'était comme ça. Moi, j'ai...
Hey, c'est long, creuser un trou, là?
J'ai passé 2 journées à faire ça. Fait que... Puis surtout, c'était quand il y avait le dégel.
Ouais.
Tu sais, parce que dans l'hiver, les corps sont mis dans la charnière, qui appelait, c'est une petite mais un genre de cabanon plus chic un peu. Fait que ils les entreposaient là, puis quand le dégel était fait, ben là ils creusaient tout le trou. Fait que puis là il fallait qu'ils avisent les familles parce qu'ils enterraient un par un, puis les familles pouvaient venir à cette étape-là qui des fois datait de quelques mois. Tout ça a beaucoup changé maintenant avec l'incinération, avec l'ébullition aussi là qui connaît,
oui, c'est vrai, ouais.
Je sais pas si ça connaît un grand succès, mais ça se fait également comme façon de disposer des restes de quelqu'un. Je continue la lecture des décès parce que je souligne ici Agnès Drolet-Fizet, 101 ans. Mmh. Elle était au centre d'hébergement à Pont-Rouge. Des fois, je m'amuse quand ils ont cet âge-là. Puis, des fois, je vais voir première noce, deuxième noce. Je sais pas son cas. Je pense que je suis déjà monté à 4 noces.
Ah oui?
Madame, elle en avait tué 4. Mais, elle, pas
hey, elle vivait d'amour.
C'est ça que je dis. Boy. Ensuite, Jean-Claude Demers à Lévis. Il était né en 71, donc n'avait que 49 ans. Mmh. Il est dans les avis de décès. Il laisse ses 2 fils... dans le deuil. Il y a aussi Marjolaine Bélanger. Elle, née en 59, OK, 61 ans, voilà. Et je termine avec cet avis de décès-là parce que, évidemment, c'est quelque chose que j'étais au courant, puis vous allez comprendre pourquoi. À la maison d'Hélène, premièrement, ça c'est la maison de soins palliatifs dans le secteur de Montmagny. C'est une maison à laquelle on a fait... Tu sais, quand on a présenté le show de Bob Bissonnette sur Internet, on a remis presque 5 000 $ à la maison d'Hélène, dont moi, personnellement, qui ai fait un don de 1 000 $ pour cette maison-là. Des maisons de soins palliatifs, c'est d'une utilité incroyable maintenant. Alors, c'est l'avis de décès de M. Marcel Catelier. À Montmagny. Il est décédé à l'âge de 75 ans. Il a été maire de Cap-Saint-Ignace pendant de 1997 à 2009. De 2005 à 2009, il a été préfet de la MRC de l'endroit. Et pourquoi j'en parle? Je trouve ça le fun. C'est sûr que ça me touche direct, là, parce que la famille, dans l'avis de décès, tiennent à remercier spécialement les infirmières dévouées du service à domicile, et ils nomment ma blonde là-dedans. Parce que c'est elle qui s'occupait beaucoup de monsieur... elle s'était beaucoup attachée à la famille et au monsieur. Tu sais, quand tu fais du soin à domicile, il y a beaucoup de monde en fin de vie. Là, il y a un vendredi, on devait souper ensemble, puis ma blonde était sur appel, puis elle est restée avec la dame qui allait perdre la vie dans les heures. Finalement, c'était des minutes qui ont suivi. Moi, je comprends pas, je fais une job, je serais pas capable. Là. Fait que mais ça prend du monde pour faire ça. Là. C'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est ça.
Mon père en a eu des soins à domicile avant d'être placé. Puis c'est souvent les mêmes qui reviennent, les mêmes préposés qui reviennent. Puis veux pas, tu développes des liens. Là,
c'est humain avant tout. Là.
Oh oui, c'est ça.
Puis, les filles, des fois, ils s'écrivent. Là, quand, mettons, ils sont en congé, puis un de leurs patients, il y a une quantité, je sais pas combien, de patients qui sont en soins palliatifs. Fait que s'il y en a un qui décède, il aime ça le savoir. Parce que ça lui fait toujours quelque chose. Puis c'est assez particulier.
Ben, c'est ça, ta blonde doit vivre des émotions aussi parfois quand elle a côtoyé longtemps et souvent une même personne qui était malade puis que finalement elle apprend son décès.
Oui, c'est ça. Puis surtout, tu sais, ça dépend aussi, les soins vont durer combien de temps. Fait que si des fois t'es une heure avec le patient, puis là, son épouse est là, ou des fois les enfants sont là, ou tout ça, là, t'as le temps de jaser de toutes sortes de choses. Alors,
Mon père était dans l'aile des soins palliatifs pendant un peu plus de 3 semaines. Fait que, tu sais, c'est assez de temps, effectivement, pour développer des liens avec ces gens-là. Puis, tu sais, après 2 semaines, ces gens-là, tu les croises dans le couloir, toi aussi, comme étant pas le patient, mais comme étant un proche du patient. Puis, tu sais, c'est des bonjours, puis c'est des visages familiers. Puis, instantanément, ils redeviennent...
Tu sais, nous autres, mon père était au CHUL dans l'unité gériatrique pendant plus qu'un mois et demi, je pense. Ça fait que c'est souvent les mêmes... Tu sais, on allait le visiter à peu près à tous les jours, puis c'est souvent les mêmes infirmières préposées qu'on croisait.
C'est ça, il y a deux, trois chiffres, fait que c'est toujours c'est les 4-5 mêmes, fait que tu les salues, tu viens les connaître. Ouais. Mais eux, ils doivent garder... Tu sais, ma blonde, comme dans le cas de M. Catelier, ça y a fait quelque chose, mais en même temps, il faut que tu te fasses un peu une carapace.
C'est clair, parce que tu peux pas te laisser affecter... émotivement par les départs, les décès des gens que tu as soignés, avec qui tu as développé une certaine relation un peu plus directe.
Exact. Que ce soit, mettons, la maison Michel Sarrazin ou la maison Lévis, comment ça s'appelle, du Littoral, qui est l'autre maison de soins palliatifs. Il y en a une à Saint-Georges qui est Catherine de Lompré, maison d'Hélène qui est du côté de Montmagny. C'est des endroits où les gens... Je pense que la moyenne, c'est un mois à peu près. Fait que quand une personne décède, le lendemain, il en rentre un autre. Fait que il faut que tu deals bien avec la mort. Là. Mm. C'est comme ceux qui... Il y a des infirmières et des médecins qui ont développé une genre de spécialité de l'aide médicale à mourir. T'sais, c'est pas évident là, quand tu vas aller brancher, par exemple, le cathéter ou tout ce qu'il faut pour préparer les injections pour l'aide médicale à mourir. Tu comprends que tu vas donner la mort, mais c'est le choix de la personne.
C'est ça.
Pas n'importe qui peut faire ça, là.
Faire ça comme machinalement, là. C'est impossible que tu le fasses comme ça. Bien que toi, dans ta job, tu vas avoir à le faire plusieurs fois, puis ça reste un acte médical. Tu peux pas le faire machinalement.
Non, c'est ça.
T'sais, mon père, à 54 ans, il y a, parmi les gens qui aiment le plus au monde, ou qui a aimé le plus au monde, il y a une dame qui était infirmière à l'hôpital quand ma grand-mère était dans sa dernière semaine de vie, là. Il rendait visite à chaque soir. Mon père était tout le temps là, puis la seule chose qu'elle était capable de manger, c'était les petites pot de crème glacée, là. Ouais. Fait qu'il en apportait un à chaque soir. Puis un soir, il savait que c'était fini, couvre-feu, fallait qu'il parte, et il s'est caché en arrière d'un rideau pour être capable de rester plus longtemps avec ma grand-mère, sachant que c'était la fin. Ses pieds dépassaient, fait que l'infirmière l'a vu, puis elle a juste dit « Je vous ai pas vu, monsieur », puis elle est repartie de la salle. Cette femme-là fait partie des gens qui a le plus aimé dans sa vie.
C'est ça. Mais c'est très cool d'avoir fait ça comme ça. T'sais, des fois, ça prend un peu de logique dans tout ça. Là.
C'est des humains avant tout. Là. Ils comprennent.
Tu sais, on est en période de COVID, puis c'est bien correct, là. Mais il y a quelqu'un très tout près de moi qui a eu quelqu'un dans sa famille qui a eu un grave accident. Et ils se sont rendus conjoints, frères et sœurs, à l'hôpital. Et, tu sais, parce que là, c'était très, très grave. Ça l'est encore aujourd'hui, puis ça fait déjà 2 semaines. Et, tu sais, dans le cas de COVID, là, ça va pas... Puis là, on est aux soins, on est en salle d'urgence, d'opération, premièrement. Il était à la table d'opération, je sais pas combien d'heures. Mais peu importe, mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, il fallait qu'il slaque le COVID, là.
Oh, oui, parce que là, normalement, tu as droit à un visiteur à la fois, puis ouais. c'est tant de temps chaque visiteur.
C'est ça. Fait qu'au début de la patente, de ce que j'ai compris, ils ont abaissé les règles pour laisser la famille immédiate être tout près. Mm. Quand ils ont vu que ça allait un peu mieux, là, dans un état comateux, mais que ça allait un peu mieux, ils ont demandé, par contre, ils étaient basés à l'hôpital, là, ils ont demandé de se trouver un endroit pour se rallier quelque part, puis de partir de là pour aller à l'hôpital, faire une petite visite, puis repartir. C'est de ne pas rester là.
Puis il changeait de.
C'est ça, il
se relayait.
C'est ça, exactement. Visites, ouais. Fait que, voilà. OK, donc on est le 13 août aujourd'hui. Que s'est-il passé à travers cette belle planète un 13 août?
Tu veux-tu ta trame?
Ah oui, donc.
Hey, t'as chose. Tu veux ça, toi, chose?
C'est un succès.
Des kiwis pour faire ça, il a enlevé son dentier. Cindy Holland. Connaissez-vous Cindy Holland, cette femme?
Non, c'est rien.
Cindy Holland, non.
C'était la plus grande femme du monde. Elle est décédée en 2008. Elle était grande comment?
Grande. Grande.
7 pieds.
Toutes ses jupes étaient des mini-jupes.
Même les longues.
7 et 7.
7 et 7?
7 pieds et 7, ouais. Fait que 2,35 mètres. Il l'appelait la grande.
Ça va la grande? Quel sportif on connaît dans ces eaux-là?
Ben là, Manute Bol.
Hein?
Manute Bol.
C'est qui, lui?
C'est un joueur de basket. C'est un Éthiopien où il a joué pour Washington, entre autres. Lui, je ne me souviens plus si c'est de lui. Je pense que c'est de lui qu'on parlait. Il y a un coach dans la Ligue, dans NBA, qui disait il est tellement maigre, là. Quand l'équipe voyage, il ne l'envoie pas en avion, il l'envoie par fax.
J'aime ça, c'est bon. Hey, en 1990, c'était la première députée élue au fédéral du Bloc québécois, quel mouvement inutile, en 1990. Donc, Gilles Duceppe était élu comme premier député du Bloc québécois à Ottawa. John Turner, lui, vous souvenez-vous de John Turner?
Oui, il ministre, des Finances.
Ministre des Finances. Et là, on est en 1984. Pourquoi John Turner a dû s'excuser publiquement, Bez?
Parce qu'il charge trop de taxes ou...
Non. John Turner a dû s'excuser publiquement. Pourquoi, Pierre?
Je m'en souviens pas.
Il avait une mauvaise habitude.
Laquelle?
Pascal?
Oh, ouais, oublie ça.
Aller, il se mettait les doigts dans le nez?
Non, ou... il tapotait le postérieur des dames qui l'entouraient.
Ah, bravo.
Un grand champion.
Oui. Ouais, mais...
Non, un grand champion.
Époque, hein? Stéphane, une autre époque, hein?
C'est une autre époque. En 1984, il papotait le popotin postérieur des dames qui postulaient. en 1938, à Valleyfield, c'était la première des régates de Valleyfield. C'était une course de canot à moteur. Ça devait aller moins vite, mais ça devait être drôle. le but n'était que de prendre un coup de toute façon.
Je pense ça se passe drôle. Encore, ça.
Les régates à Valleyfield, oui, mais là, c'est des Formule 1. Là.
Bon, c'est plus sérieux. Ça, va
ça
plus vite
roule
peu,
en
là.
Temps.
Oui.
Avec, pis,
c'est dangereux.
On parle
il y a,
de
des décès, des fois.
Oui, il y a des morts, parce que c'est tellement plat, ces petits bateaux-là, et c'est tellement cheap. C'est parce que ça doit être extrêmement léger. Mm-hmm. Et c'est dans un plastique. Quand ils perdent le contrôle, ça se démolit en 1000 morceaux. Puis les gars meurent. C'est aussi cave que ça. Mais voilà pour les régates de Valleyfield.
Puis dès que tu pognes une vague, pis le devant lève, ben, ça fait comme une aile d'avion.
C'est ça.
Ça revole en l'air.
C'est pas comme un cerf-volant, c'est ça. La Presse, en 1921, le journal La Presse installait sa première boîte distributrice à Outremont. Oh. Donc, dans lequel ils mettaient les journaux. Et le quotidien coûtait à cette époque, en 1921...
Oh, pas cher.
10 cents?
3 cents.
3?
3 cents. Je crois qu'il y a 3 pennies dans la boîte pour avoir un journal. Il y avait sûrement des crosseurs qui payaient, puis quand ils ouvraient le panneau, ils en prenaient 2
non,
copies.
Non, ça s'est jamais fait.
Jamais. Et en 1907, c'était le premier muni d'un compteur, le premier de l'histoire en 1907, le Yellow Cab de New York. Honnêtement, Yellow Cab, je l'invente, là. Je suis pas sûr qu'il était jaune, mais c'était le premier taxi muni d'un compteur pour mesurer la distance qui apparaissait dans les rues de New York en 1907. Mmh. Donc, probablement qu'il était pas jaune, là, mais ils sont venus jaunes assez vite.
Manute Bol, dont je parlais tantôt, oui. C'est un Soudanais. Qui est décédé il y a 10 ans, en 2010, à l'âge de 47 ans. 7 pieds et 7, pareil comme notre madame.
Comme la madame, OK.
Comment il pesait?
Je sais pas.
220.
Pour 7 pieds, ouais.
Pour 7 pieds et 7, 220. Il était meille. Red meille.
Ah ouais? Je serais encore rond, moi, 7 et 7.
Puis il a joué pour Washington, Golden State, Philadelphie, Miami, c'est ça.
Bon.
Et le premier taxi était noir, messieurs.
OK. Merci, Pascal.
Puis 7,7-300, moi, je pense que ce serait pas si mal que ça.
Ah, je serais encore rond. Ça serait tout à la même place.
Oh, c'est ça le problème, toi. C'est pas ton poids, c'est juste que t'es pas assez grand.
C'est mal réparti. Ah, ouais, pas assez grand. Puis c'est mal réparti. Ouais. Tu sais, s'il m'en mettait un peu plus dans les mollets, là. T'écoutes ça, toi, ma vie à 600 livres?
Pas en tout.
Non?
Ah. Non.
Tu manques de très bonnes émissions.
Là. Ben, ouais, j'en regarde d'autres très bonnes aussi. Ouais.
Hey, là, des meilleures. J'ai pas eu le temps de toutes les écouter, je les ai enregistrées, là. C'est deux frères qui sont toutes les deux à 600 livres. Un s'est fait opérer avant l'autre, puis, mais, tu sais, dans ma vie à 600 livres, comme dans Désordre extrême, comme dans toutes ces émissions de débile-là, il y a un fond très présent de maladie mentale. Tu comprends? Mmh. Tu peux pas manger ta vie de même juste parce que t'as faim. Ça se peut pas. Là, t'sais, ça va pas bien dans ta tête. Là. C'est comme la drogue. C'est drôle, hein? On le dit pas tant souvent pour la drogue. Mais aussitôt que un psychanalyste embarque avec un candidat de l'émission Ma vie à 600 livres, un homme ou une femme, découvre rapidement un problème majeur dans la psychologie de la personne. T'sais, soit dans son enfance, avec des membres de sa famille, et c'est quelqu'un qui, clairement, va noyer ses émotions dans la nourriture. Mmh. Et c'est sans arrêt. Et quand la roue commence, elle est à peu près impossible à arrêter.
Ouais, parce que là, ton physique s'habitue à cette quantité de bouffe-là.
Ouais, puis c'est de la junk, c'est de la cochonnerie. Ouais, mais ouais. Quand tu vois les assiettes, ou tu sais, là, il y a un des gros, il mangeait 6 larges, les pizzas. Yeah. Là, quand je te dis, là...
Ça t'a coûté une fortune.
Oui, puis ils sont pas vrais. Puis ils sont pas capables de sortir de la maison. Puis, tu sais, c'est... Les deux frères, là, ils se sont... l'émission a tenté de les réconcilier, puis ils se sont envoyés chier à tour de bras. Et mais derrière le mollet, là, ou le mollet de la jambe, là, le gars, il devait avoir 50 livres de gras, juste là.
Il y a des bourrelets de mollets.
Ah oui, oui, ça n'a pas de bon sens. Hey boy, si tu voyais tout ça...
Moi, c'est un endroit où j'ai perdu du poids. En perdant un peu plus de 100 livres, là, les mollets, je peux vous dire, ils passent pas mal plus facilement dans les pantalons qu'ils passaient avant.
Ça, c'est différent. C'est, ouais. Ça, c'est un endroit où ça s'accumule beaucoup. Tu leur vois pratiquement plus la cheville, ces gens-là.
Ouais. Ils sont transportés sur des bâches. Puis c'est pas une blague, là.
C'est ça, ils sont trop gros. Puis là, ils veulent plus marcher, ils veulent plus l'effort. Puis en plus, ils se disent, j'ai mal aux genoux. C'est vrai, à transporter ce poids-là. Hein?
Ton squelette n'est pas fait pour supporter ce poids-là.
Mais mon point, donc, on analyse les gros, tu sais, à 600 livres, puis il y en a eu un là, qui pesait plus de 1000 livres là, dans l'émission.
1000?
1000, oui. C'est les pompiers qui l'ont sorti. Ils ont toujours coupé le mur de la maison pour le sortir de chez eux.
Avec une grue?
Non, c'est les pompiers qui l'ont sorti. Mais... Non, il n'y avait pas de grue. Il y avait peut-être un système de palais, là, une winch, mais je ne sais pas.
Mais étais-tu décédé?
Non, pas tout.
Mais il s'en allait à l'hôpital?
Il l'a emmené au docteur Nazaradan, docteur Nao, comme tout le monde l'appelle. Puis lui, il est spécialisé dans ça. Il ne fait que ça, lui, opérer des gros.
Il est rentré comment chez le docteur?
Ils l'ont rentré en troc, là. Ils l'ont livré dans un...
Mais as-tu ouvert le mur du docteur aussi pour le...
Non, lui, c'est sa clinique, c'est ça pour les gros.
Une porte de garage.
C'est pas le genre de porte de garage, c'est ça. OK.
Une winch,
mon père, il était parrain d'une amie de ma cousine, puis elle faisait du patinage artistique, puis il l'agaçait tout le temps qu'elle allait être grosse. Puis il disait, quand tu vas donner un spectacle de patin, tu vas rentrer par la porte de la Zamboni. Je me suis dit, il arrêtait pas de dire ça, étant sacrifice. Mais tout ça pour dire que le docteur...
Qu'elle va bien en 2020.
Le docteur, avant d'opérer les gens, tu t'arrives pas là, tu payes 600, dire, OK, on va t'opérer, la chirurgie bariatrique et tout ça. Non, tu dois... Il va évaluer, commenter, et il va exiger que par toi-même, tu perdes, mettons, 100 livres. Des fois, ça peut aller à 150 livres. Et c'est extrêmement facile. T'as rien qu'à diminuer un peu ton nombre de calories. Puis ces gens-là sont tellement gros qu'ils perdent 100 livres en claquant des doigts, là. Et après ça, s'ils voient qu'il y a une volonté de la personne, là, ils les opèrent. Ouais. Parce que pour que ça vaille la peine plus tard. Là.
D'autres mots, avez-vous tout essayé avant de prendre la dernière solution? C'est exactement ça.
Oui, mais malgré qu'à ce poids-là, c'est sûr que ça prend la chirurgie bariatrique.
Ouais, c'est
ça,
exact.
Ils enlèvent entre 75 et 95 % de l'estomac. Ouais.
Mais quand tu es à 600 livres, ton estomac était peut-être un petit peu plus gros que le tien ou le mien. Fait que...
C'est gros comme un sac d'épicerie en plastique.
Ah, c'est ça. Fait qu'il t'en laisse quand même une bonne partie, mais oui, ça demeure imposant. Là. Au départ, là, boire de l'eau, c'est un défi. Moi, là, j'ai pas.
Mais, quand après la chirurgie.
Ouais, ouais. Hey, moi, là, j'ai les premiers mois, premiers jours puis les premières semaines, là, j'ai pas des bons souvenirs, là.
Okay.
Le résultat est fantastique, mais le début, c'est atroce, là.
Est-ce que ton médecin est au courant que tu bois du Red Bull à tous les jours?
Qui?
Ton médecin, est-ce qu'il sait que tu bois du Red Bull à tous les jours?
C'est l'heure d'aller en pause.
Oui, c'est l'heure d'arrêter aussi. T'es un gars intelligent qui...
C'est fin, ça.
Non, mais c'est vrai, très intelligent.
Tu connais mal.
Puis, tu sais, je comprends pas comment tu restes accroché à une... Tu sais, t'as très peu de défauts alimentaires et de consommation. Tu bois pas d'alcool,
ouais.
Tu fumes pas,
non.
Tu te drogues de temps en temps.
Ah, avec mes chums, je me défonce la gueule.
Tu défonces la gueule, oui. La cocaïne, je pense, non?
À cocaïne.
Non, mais sérieusement, je sais que t'es tranquille. Puis, t'aurais juste ce petit croche-là à guérir, là. Puis, tu serais un modèle pour plusieurs hommes.
Je vais enregistrer cette partie-là, je vais la mettre en loop dans mon téléphone.
OK, ça peut entendre fois une sonnerie.
Ah, c'est bon. Hey, sonnerie, t'as-tu le goût d'en parler vite?
Ben oui, quoi?
Ben, t'as pas une sonnerie à promoter comme
ça? Okay.
Oui, ben, on l'a mis sur Facebook. J'en ai pas parlé ici.
Ben, très peu, je trouve.
OK. Ben, c'est. Moi, les mecs, j'ai rien à voir là-dedans. C'est la Fondation Bob Bissonnette qui ont mis 12 sonneries disponibles sur iTunes d'expressions que Bob utilisait beaucoup, comme gorgé, c'est la plus belle journée de toute ma vie. Là, je ne sais pas les 12, là, mais nous, on a tourné un vidéoclip pour celle-là de gorgé. On a eu du fun en tabarnouche. On était à broche à foie ce soir-là, puis on a tourné. Puis tu sais, on avait rien qu'une prise, parce que je bidon calait un pot de bière. Ouais. Il se le versait dans la face plus qu'il le calait. Là, parce
qu'il pas en face cette fois.
Ouais, fait que vous irez voir ça. Je l'ai mis sur Facebook. Elle est disponible également sur les Facebook de la Fondation Bob Bissonnette. Les sonneries coûtent 1,29$, ça se peut-tu? C'est quasiment rien. Puis évidemment, tous les profits vont à la Fondation Bob Bissonnette.
Ah, c'est cool.
Ces gens-là tentent de se réinventer. Parce que là, le cœur du financement de la Fondation, c'est évidemment le classique Bob Bissonnette qui aura lieu là, dans quelques semaines.
Puis la Fondation, c'est hot parce que, tu sais, on se dit souvent, ah, on envoie de l'argent quelque part, on sait pas trop où ça va. La Fondation, c'est tellement du concret. Là, on voit les photos passer. Puis c'est des sets de chandails pour des associations de sport. C'est des inscriptions pour des kids qui ont besoin d'aide puis qui ont le goût de jouer puis leurs parents ont peut-être pas les moyens.
Exact.
Moi, je trouve ça fantastique.
Puis c'est pas juste du sport. La Fondation fait de gros efforts pour également des écoles de musique. Je pense que c'est l'école de violon, des écoles de musique. Donc, les gens font des demandes. Puis eux, au lieu de faire des dons de 10, 15 ou 20 000, font beaucoup de petits dons de 2, 3 puis 4 000, selon la demande de l'association. Et ça doit être une demande précise. On voulait des chandails. C'est ça, un projet très précis.
Okay.
Bon. 7h34, les nouvelles sont pas faites, hein?
Non. Mm-mm.
Oh, OK. Fait qu'on fait des nouvelles, mais il faut faire une pause, hein, je suppose? Mm. On vient.
D'autres segments scientifiques et intelligents s'en viennent. Faut juste les trouver. FM 93.
C'est la grande liquidation de hockey chez EcoSport. Des rabais de 30 à 70% vous attendent sur tout. CCM, Power, Sherwood, True. Oui, tout est en liquidation de 30 à 70%. Du jamais vu en début de saison. Premier arrivé, premier servi. EcoSport, Québec et Lévis.
Êtes-vous déjà allé chez Charlebourg Toyota? C'est sur Henri Bourassa, dans le haut, là, dans le coin des noms de rue d'animaux. Là, direct en face de l'avenue de la Biche. Parce que j'ai une amie qui habitait là.
De la Biche.
Ouais.
Alors, Stéphane, la rue de la Biche, pour vrai?
Oui, pour vrai.
La Biche ou la Biche?
Non, la Biche.
Ça va très bien.
J'ai parlé d'animaux.
Ah oui, OK. Hey, tu sais que mon premier accompagnement de... Comment ça s'appelle dans le temps des fêtes, là?
Nez rouge?
Nez rouge. J'ai fait du nez rouge une fois.
T'as fait ou t'as pris?
Le prendre, j'ai une carte de membre. Là. Non, mais j'ai trouvé ça extrêmement difficile.
T'as conduit, là, pour
Oui, j'ai accompagné des gens de nez rouge. J'ai fait une soirée, là. Et puis le premier parti où je suis allé, ils m'ont offert un verre. J'ai dit, oui, ça me tente donc bien de rester ici. Je voulais plus m'en aller. Hey, tu vas dans les plus beaux parties.
T'as eu
de Noël.
Le genou mou.
Hey, le genou mou, tu dis. Et le premier accompagnement qu'on a fait, c'était, j'ai tourné là. Charlebourg Toyota, quand tu montes, c'est à droite. Puis j'ai tourné là dans la rue à droite. Mm-hmm. Puis il y a un autre, tout de suite à droite aussi dans la première rue, puis c'est la première maison.
Fait que OK, donc direct en arrière.
Direct en arrière. Okay. Parce que j'ai tourné
avant.
Avant.
OK, presque en arrière.
C'est ça, exactement. Okay.
Mais parlant de genou mou, vous allez avoir le genou mou quand vous allez rentrer chez Charlebourg Toyota.
Oui, hein?
C'est tellement lumineux, spacieux, c'est spectaculaire. Et vous allez rentrer là en toute confiance, en toute sécurité, parce qu'on nettoie à fond la concession pour votre sécurité. Les véhicules aussi, évidemment, on les nettoie. Allez faire un tour pour voir en particulier le RAV4. Deux roues motrices 2020 à seulement 90 $ par semaine, location 60 mois. Vous pouvez aussi ajouter 5 $ de plus par semaine pour avoir un 4 roues motrices. C'est spectaculaire, le RAV4. On a changé la gueule. Il y a vraiment de la gueule. C'est vraiment cool. Il y a un régulateur de vitesse adaptatif. Vous mettez ça sur l'autoroute à, mettons, 100, parce qu'on n'a pas le droit de rouler plus que 100. Mais si vous suivez, si vous suivez un véhicule plus lent, il va ralentir tout seul, automatiquement, pour s'assurer de garder une distance sécuritaire avec le véhicule d'en avant. Et le RAV4, ça a une valeur de revente vraiment remarquable. Et ça, c'est important parce que ça paye une partie de votre prochain véhicule que vous allez prendre, évidemment, encore chez Charlebourg-Toyota, tellement vous allez avoir été bien servi. Alors, allez faire un petit tour chez Charlebourg-Toyota pour voir tous les avantages. Vous pouvez aussi commencer votre magasinage sur charlebourgtoyota.com. Pour magasiner en toute sécurité, passez-nous voir Charlebourg-Toyota, boulevard Henri Bourassa, Charlebourg.